marche, elle contre les violences policières, puisque société nucléaire égale société policière, donc on voit bien qu'il y a un petit lien entre tout ça. Cette autre marche démarrera à 14h de la gare du Nord. Donc voilà, ça c'était le côté du nucléaire.
Disons, il y a d'autres initiatives ce même jour en province. Donc vous regardez sur Internet, par exemple au site de l'ICAN, ICRN, bon, qui organise cette marche, ou bien sur la coordination antinucléaire, il y a les diverses initiatives dans diverses villes.
Voilà. Absolument, puisqu'un des principes de cette coordination, c'est aussi de laisser les initiatives se faire en région et de pas simplement avoir des mots d'ordre nationaux. Donc renseignez-vous localement. Il y a sûrement des choses, et il y aura d'ailleurs des choses dans le même ordre d'idée le 22 octobre, où je crois qu'il y aura des choses qui vont se mettre en place un peu partout sur Paris et en région. Sans transition, je me suis détourné du micro, mais sans transition, quelques infos sur les animations à venir de la librairie Publico, librairie de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot. Dimanche 24 septembre à 16h, il y a une projection débat d'un film qui s'appelle « Bon pied, bon oeil et toute sa tête ». Handicap et politique. Ça sera l'initiative du groupe d'Ivry. C'est un film qui dure 80 minutes. Ça sera suivi d'une discussion avec l'équipe de L'Entonnoir, qu'on connaît bien à Radio Libertaire, puisqu'ils y font une émission critique de la psychiatrie. Bon pied, bon oeil, c'est un film qui a été réalisé en 78, comme ton livre a été édité en 78, sans lien sans doute, par Gérard Leblanc et le groupe Cinétique, avec le comité de lutte des handicapés et le groupe Information Asile, avec une grande originalité formelle, soutenant une remise en question radicale. Ce film analyse les handicaps dans l'histoire de leur représentation et de leur contexte social et politique, et documente la lutte des handicapés méchants.
Que j'ai connu. Et très proche, et d'ailleurs, des cortèges libertaires dans les années 70.
Mais Serge n'est pas méchant du tout.
Ça, il ne faut pas quand même.
Il ne faut pas pousser. les luttes des handicapés méchants, des psychiatrisés en lutte et autres trublions des années 70, justement. La semaine suivante, le samedi 30 septembre à 16h, toujours librairie Publico, présentation lecture de poèmes militants. Faille volante de Monica Journet, c'est publié aux éditions Libertaires. Monica Journet, du groupe Gaston Coutet de la Fédération anarchiste, nous invite cette fois encore à une lecture militante. Toute poésie, nous dit-elle, est engagée. Elle engage tout notre être. Le dire n'engage que moi-même, mais vous aussi peut-être, car lire est un partage. Dans son nouveau livre, Feuille volante, la poétesse anarchiste essuie de son drapeau les larmes de la nuit. Des poèmes libres, rimés ou non, à partager sans modération à la librairie Publico. Bonne fin de journée, merci à nos invités et à la semaine prochaine.
Et on va se quitter avec Eric Frasiac en duo avec Jérémy Bosson, espèce de con. Au revoir.
C'est pas une espèce protégée, y a pas de danger qu'elle disparaisse. Ça se reproduit l'hiver, l'été, ça fait pas trop dans la finesse.
Ça a un cœur qui bat tout rouge, pourtant ça tire sur tout ce qui bouge. De tous les côtés des frontières, ça joue aux soldats, à la guerre.
Ça s'éclate à la guérilla, ça FSB, ça CIA. Du plus profond des millénaires, de l'armée de sang et rivière. C'est une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un mammifère au sommet de l'évolution. Espèce de... Ça construit des murs à Berlin, Jérusalem ou Tijuana.
Ça peut pas saquer ses voisins. Pour vivre heureux, vivons chez soi.
Ça génocide, ça vocifère, ça apartheid, ça terrorise.
Pour le pouvoir, pour un bout de terre, faut que ça se bastonne, faut que ça se détruise.
Une espèce un peu à part, le fruit dont c'est trop quel hasard. Un mammifère au sommet de l'évolution.
une espèce un peu à part, le fruit dont c'est trop quel hasard, un vertébré un peu timbré, un peu truffion.
Ça genouille, ça prie des dieux, mais faut que ça zigouille dès que ça peut.
Ça inquisitionne sa croisade, ça colonise et ça djihad.
À coup de missile, à coup de roquette, ça va faire péter la planète. L'humanité disparaîtra, bon débarras. C'est une espèce un peu à part, le fruit dont c'est trop quel hasard, un petit bipède au gros cerveau, un vrai champion. C'est une espèce un peu à part, le fruit dont c'est trop quel hasard, un homo sapiens imbécile, un bon couillon. Un singe qui a mal tourné, qui est devenu cro-magnon. C'est le nom d'une espèce guerrière à l'unisson. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con.
Cerclé de portefeuille, stomac à l'élivide, gonflé par l'illusion, parfois dragué par l'âme, vidé par l'insondable, guidé par la victoire. Elle avance aujourd'hui, en plein air sans complexe, chez les petits affranchis, de la voix et du geste. Y'a pas de transparence dans la géflexion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption. Dans sa fonction assise, comme une courtisane, elle parle du futur. Dans les fumées à vin, des cercles réfléchis par des miroirs obscurs. Tout le monde s'épie, blanchit et se rassure. Et s'il te reste encore une portion d'azur, une idée libertaire, une folle passion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption. Positive et inquiète, pour souffler pourri, corruption ordinaire de la démocratie. Y a pas de transparence dans la géflexion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Radio Libertaire, la voix sans Dieu. La voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste, c'est la société dans tous ses états, troisième lundi du mois, il est 18h passé de 5 minutes. Au mois de juillet dernier, à Saint-Imier, ont eu lieu les rencontres internationales anti-autoritaires sur le lieu où, en 1872, prenait naissance la première internationale anarchiste après le congrès constitutif de 1872. Il s'est passé des choses qui, on peut dire, déplorables lors de cette rencontre internationale anti-autoritaire. Avec dans le salon du livre qui était tenu entre autres par des compagnons et compagnes de la Fédération anarchiste, deux livres qui ont été l'objet d'attaques, d'attaques furieuses de personnes qui s'en sont pris et au stand de la Fédération anarchiste qui présentait entre autres ces deux livres et aux livres eux-mêmes et puis aux compagnons et compagnes présents sur les lieux. Ce qui a donné lieu effectivement à pas mal de pagailles sur place et surtout à une forme d'autoritarisme dans un lieu où, qu'on aurait pu croire à l'abri de cette dérive. Ces deux livres qui ont été l'objet du courroux de certaines personnes, certains groupes, portent tous les deux sur des aspects de la religion musulmane. Le livre d'Hamid Zanaz, Impasse islamique, qui avait été publié aux éditions libertaires aux alentours de 2008 ou 2009, avec une préface de Michel Onfray, et le livre de René Berthier, signé René Berthier, Un voile sur la cause des femmes, qui avait été édité aux éditions du Monde libertaire, qui est un recueil d'articles dont trois sont signés par René Berthier. Et pour revenir sur ces événements et sur ce qui en est le prétexte, j'ai demandé à René de venir à notre émission pour discuter avec lui à la fois du contenu de ce recueil, de cette brochure, mais aussi pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à Saint-Imier. René, bonjour.
Bonjour.
merci d'être venu pour discuter de tout ça. Enfin, on va essayer d'aborder plusieurs points avec toi. D'abord, revenir sur les événements de Saint-Imier. Alors, tu n'y étais pas.
J'y étais pas, non.
Mais tu as eu quand même des échos et puis tu as ton mot à dire.
J'ai eu beaucoup de témoignages.
Oui.
De pas mal de camarades de la Fédération anarchiste. Et non fédération anarchiste et tout se concorde quoi. J'ai des documents qui ont été écrits qu'on m'avait demandé de pas diffuser parce qu'il est normal parce que ça me regardait pas. Enfin c'était moi je ne suis plus à l'AFA depuis quelques années donc c'était pas à moi de parler au nom de l'AFA mais je me suis exprimé en mon nom dans la mesure où quand même trois de mes écrits avaient été remis en cause quoi. Donc, en plus c'est une brochure je sais pas elle fait 90 pages enfin bon. Je l'avais complètement oublié. C'est ça qui est drôle, quoi. Oui. Je crois qu'elle a été publiée en 2009, donc ça fait quand même un petit bail, avec des articles qui avaient été déjà écrits avant, quoi. Donc, c'est une vieille histoire. Donc finalement, ça a fait beaucoup de pub. Les copains de la table de presse, les copains du groupe Kropotkin, qui se sont fait agresser violemment, il y a eu un blessé, quoi. Ouais. M'ont dit qu'ils avaient tout vendu, ce qui est très bien. d'une certaine façon.
Mais oui, bon. Ça s'appelle l'effet Streisand, tu sais. Lorsque, ah oui. Oui, juste pour l'anecdote, comme ça, il y a pas mal d'années de cela, un site internet avait publié une photo aérienne de la somptueuse villa de Barbara Streisand qui se trouvait au bord de l'océan Pacifique, je crois. Et celle-ci avait demandé à ce qu'on retire la photo pour des raisons. Ouais. Et ça a fait exactement l'effet inverse, oui. Que ce site qui était absolument inconnu, tout d'un coup, s'est trouvé sur les feux des projecteurs et du coup, ça a provoqué un afflux. Et c'est connu, hein, l'effet Streisand. On veut cacher quelque chose et finalement, on obtient l'effet inverse. Hein.
Donc, bon, alors, d'après les témoignages concordants que j'ai eus, il y a eu une première agression par 4 femmes qui déclarèrent qu'elles n'étaient pas musulmanes, mais qui voulaient que mon livre soit retiré parce qu'il était islamophobe. Et parce que j'étais un mâle blanc cisgenre hétérosexuel, je sais pas comment elles savent que je suis hétérosexuel. Mmh. Bon, et donc j'avais pas, j'étais pas légitimé à parler de femmes et de femmes musulmanes. Bon, en je résume. Hein, bon, et elles reconnurent qu'elles n'avaient pas lu le livre.
Bon. Oui.
Ce qui est significatif, non pas tu parlais de dérive autoritaire. Moi, j'appelle pas ça de l'autoritarisme, j'appelle ça une forme de totalitarisme.
Oui, oui, oui.
Et ces jeunes femmes, et les autres ensuite, parce qu'il y a eu 3 agressions, refusaient catégoriquement de dialoguer, quoi. Les copains ont proposé, asseyons-nous et parlons, quoi. Elle voulait pas. Elle considérait qu'il n'y avait pas lieu de dialoguer, qu'elles avaient raison, point final, même si elles n'avaient pas lu le livre. Et c'était comme ça et pas autrement. Mais c'est ce genre de comportement-là, quoi, qui est insupportable, quoi. Et c'est une régression sur le plan intellectuel, quoi, et moral.
Et politique
aussi. Et politique, bon, mais. Bon, qui est incroyable, quoi. Et c'est un type d'attitude qui va croissant, malheureusement.
Oui, c'est une forme d'intolérance à tout ce qui peut mettre en doute ou poser des questions, questionner, en fait, des attitudes. Là, en l'occurrence, on t'accuse d'islamophobie. Alors, et puis on te prête...
Mais je défie quiconque, après avoir lu, évidemment, de préférence les 3 articles, de me démontrer... D'ailleurs, j'ai fait cette requête dès le début... Prouvez-moi que mes textes sont islamophobes. J'attends toujours, quoi.
Alors, c'est une notion, on en a déjà parlé ici, et puis il y a des articles nombreux qui sont parus, et pas uniquement sur des supports anarchistes, mais sur la notion d'islamophobie, comment cette notion a été instrumentalisée, en particulier par les fondamentalistes et les personnes qui politiquement ont tout intérêt à mettre en avant cette notion, afin d'avancer un agenda politique. Hein. Mmh. On le sait bien, il y a des groupes de pression au niveau international, à l'ONU en particulier, pour réinscrire la notion de blasphème dans les textes internationaux, pour soi-disant protéger les croyants de toute obédience, mais surtout et avant tout les croyants musulmans, contre toute attaque contre leur religion. Et on veut faire glisser la critique légitime d'une croyance, d'une religion, quelle qu'elle soit, hein, vers une notion de... C'est très confus aussi, une notion de racisme. C'est-à-dire s'attaquer, discuter, alors, poser des questions, pointer du doigt tel ou tel aspect de telle ou telle religion, serait s'attaquer aux religionnaires.
Il y a plusieurs... D'abord, le terme islamophobe date de 1910, je crois, par là.
Oui, c'est...
Dans un contexte colonial, un contexte qui est complètement différent de celui auquel est utilisé le terme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le terme islamophobie, moi, je récuse ce terme parce que il n'a pas de sens. C'est en fait un cache-sexe pour masquer le racisme anti-arabe, et c'est une manière de confessionnaliser le racisme anti-arabe. Les gens qui sont islamophobes ne s'intéressent pas à l'islam en Indonésie, par exemple. Ils s'en foutent, ou aux Philippines, ou ailleurs. Ce qui les intéresse, c'est les Maghrébins. Bon, Le reste, ça les concerne pas. C'est une forme de masque pour le racisme anti-arabe le plus vulgaire, quoi, et le plus banal, si je peux dire. Mais, évidemment, à partir du moment où on est accusé d'être islamophobe, c'est comme dans les années 20, quand on était accusé d'anticommunisme, c'était infamant. Et puis, à la limite, bon. À partir de là, quand t'es accusé d'islamophobie, tu peux plus discuter. Parce que c'est le rideau de l'intolérance tombe, quoi. Moi, je récuse ce terme. Je sais qu'il existe, que beaucoup de gens l'utilisent, mais à mon avis, c'est une erreur. On peut être... la phobie, c'est la crainte de quelque chose. Bon. À ce moment-là...
une crainte exagérée ou injustifiée.
Oui, mais évidemment, aujourd'hui, c'est entendu dans le sens de haine d'eux, quoi. Mm. Bon. Mais c'est une manière d'interdire toute approche critique de la religion musulmane sous le prétexte que l'islam est la religion des opprimés. Ça, c'est une idée qui vient du monde anglo-saxon, puis qui a été reprise bêtement, comme toujours, par les intellectuels français. C'est un terme qui n'est absolument pas adéquat, je pense.
Oui, religion des opprimés, c'est-à-dire que sous prétexte, c'est un prétexte louable de lutter contre les discriminations ou le racisme dont font l'objet une population en majorité prolétaire d'origine maghrébine ou africaine ou proche-orientale, dont la religion serait supposément l'islam, s'attaquer à l'islam serait s'attaquer à ces populations. Donc on doit s'interdire au nom de la lutte contre le racisme et contre les discriminations, on doit s'interdire de critiquer la religion qui serait celle donc de ces populations. Donc il y a un glissement effectivement, il y a un glissement qui s'est fait au cours de ces 20 ou 30 dernières années, et sous des prétextes qui en eux-mêmes peuvent effectivement être tout à fait justifiés, lutter contre le racisme, on va s'interdire de porter un regard critique sur la religion. Alors au nom de tout ça, on finit par brûler des livres. Oui. C'est ce qui s'est passé à Saint-Imier.
Pas le mien, oui. Mais celui de...
Damit Zanaz. Oui, alors, parce qu'il y a eu cette agression par ce groupe de femmes, mais il y a eu...
Il y a eu, je crois, trois agressions.
Trois agressions au cours de ces deux ou trois jours qu'on durait. Oui.
Une où quelqu'un a lancé une assiette en métal sur le visage d'un copain. Mmh. Curieusement, c'est un copain qui est maghrébin.
Oui.
Voilà. Qui est victime de l'anti-islamophobie. Oui. Bon, il a fallu que ça tombe sur un copain.
Oui. Et ce qui est aussi, ce qui a questionné beaucoup au cours de ces tristes événements, c'est l'attitude des organisateurs de ces rencontres. Qui alors, était plus qu'ambigu.
Ça a été, ils ont eu une attitude. Il y avait je me souviens plus du terme, enfin le service d'ordre, quoi. Mais
le team care, la care team.
Care team. Bon, ça fait mieux que de dire, oui, service d'ordre, ça fait plus soft, quoi.
Oui.
Bon, ils se sont montrés d'une incompétents, mais ils ont pris position en faveur des agresseurs, quoi. Et ils ont refusé catégoriquement de condamner les agresseurs. Ils ont reproché aux copains du groupe Kropotkin de l'AFA de ne pas avoir retiré les deux livres et de susciter des problèmes. C'est-à-dire que c'est les victimes qui sont les coupables. C'est très à la mode en ce moment.
C'est le renversement.
Donc c'était de leur faute s'il y avait eu des troubles et s'il y avait eu des agressions. C'est quand même un comble.
Et alors, il me semble avoir lu quelque part que les organisateurs avaient décidé de fermer purement et simplement le salon,
oui,
du livre.
Les organisateurs ont menacé de fermer le salon le dimanche, le dernier jour. Et du coup, les copains du groupe Kropotkin ont en quelque sorte suscité une révolte, si je peux dire, et en quelque sorte exproprié le service d'ordre de ses compétences, et ont décidé d'autogérer le salon du livre.
Avec le soutien d'autres
organisations. Avec le soutien de tous les autres exposants.
Ah oui. Bon.
C'est-à-dire que donc le salon s'est tenu normalement le dimanche sans incident parce que le nécessaire a été fait pour empêcher le renouvellement d'incident.
On va peut-être pas pouvoir répondre forcément à toutes ces questions, mais comment se fait-il que dans ce genre d'endroit qui se réclame de l'anti-autoritarisme, comment on en est arrivé là? Est-ce que tu as des hypothèses?
Je vais être un peu brutal, mais par excès d'anti-autoritarisme.
Oui. Vas-y, explique-toi.
Non. Les rencontres internationales de 2012 auxquelles j'ai assisté se sont passées absolument sans encombre.
Il n'y a pas eu une histoire de barbecue à un moment donné?
Ah oui, quand je dis sans encombre, les seuls encombres, si je peux dire, qui ont eu lieu, c'est de la part des véganes qui ont déposé des crottes de chien sur la grille du barbecue et des antispécistes qui ont libéré des animaux d'une grande volière et les ont lâchés dans la nature, où ils se sont empressés de mourir, parce que c'était pas leur environnement. Bon. Mais, au moins, ils étaient libres. Bon. À mon avis, c'est les deux seuls incidents qu'il y a eu. Mais sinon, pour le reste, ça a été très tranquille. On a rencontré deux flics qui étaient là, qui se déambulaient, on a causé avec eux. Et ils nous ont expliqué qu'en fait, il y avait un flic qui était prévu à l'origine, et qu'ils ont doublé le service d'ordre. Donc ils étaient deux, et ils nous ont dit, mais on s'emmerde, on n'a rien à faire.
Il y avait 4000 personnes en 2012, je crois. Ouais.
Et la ville n'avait jamais été aussi propre.
Et à l'époque, c'était les rencontres internationales anarchistes.
Anarchistes, pas anti-autoritaires, c'est anarchiste, ça, là, c'est pour ça que je dis. Bon. Et c'était organisé par l'AFA, le
Cercle Noir de
Saint-Imier, oui. L'organisation, il y avait un groupe anarchiste suisse qui était là, qui je crois n'existe plus. Enfin, ouais. Bon. Enfin, c'était organisé par des anarchistes. Ouais. Quand les anarchistes organisent un truc, ça se passe bien. Ouais. Bon. Et il se trouve que l'AFA, aux récentes rencontres, a été partie prenante au début. Elle a même claqué 10 000 euros. Casque et ferme ta gueule, quoi, tu vois. Ouais. Et ils ont senti très rapidement qu'ils n'étaient pas les bienvenus. C'est-à-dire que le truc, l'organisation a été prise en main par des groupes anti-organisationnels, oui, qui étaient clairement anti-anarchistes et clairement encore plus anti-FA. Et il y a des copains de l'AFA qui sont fait menacer, si on te rencontre, on te casse la gueule.
Oui.
Parce que t'es à l'AFA. Bon. C'est-à-dire que c'est ça ce qui s'est passé. Et à mon avis, ça mérite une réflexion de fond, quoi. Que, bon, moi, je pense que les gens qui étaient là-bas et qui ont participé sont plus en mesure de analyser ça de manière...
Oui, on commence à lire quelques analyses sur certains sites internet. Il y en a un, c'est chezrenard.com, je crois.
Ouais. Il y a un très bon texte.
Hein. Oui, qui revient longuement sur ce qui s'est passé et qui apporte un point de vue intéressant. Alors lui, il fait pas partie de la FA, mais il a un point de vue tout à fait...
C'est très, très modéré comme ton. Enfin bon, il raconte ce qui s'est passé, ce qu'il a vu, quoi.
Voilà. Voilà, mais il y a une... Il y a des personnes, il y a des groupes qui se déclarent. Alors c'est comme ça qu'ils se représentent. Hein, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est il y a pas de jugement de valeur, mais qui se présentent comme des queers. Alors je sais pas très bien ce que ça
franchement,
recouvre.
Franchement, je sais pas.
C'est assez vague, assez flou comme terme. Alors peut-être que ces personnes auraient des choses à dire par rapport à leur engagement. Mais en tout cas, c'est ça. Hein. En fait, c'était une bonne partie des personnes, oui, qui étaient présentes à ces rencontres
ce qui est évident, c'est qu'il se développe en ce moment un courant que je n'appellerai pas anarchiste, mais qui est clairement anti-anarchiste et, enfin, surtout anti-organisation. Et il y a des membres du, comment tu appelles ça, Dream Team, là, je sais pas quoi, Care Team,
voilà,
ont écrit un texte qui était un chef-d'œuvre de jésuitisme, où ils disent qu'en gros que l'absence d'organisation c'est mieux quoi, ouais. Et que c'est grâce à cela qu'on fait des choses. Mmh. Alors que c'est si l'AFA n'était pas organisée, on serait pas en train de parler à Radio Libertaire.
Ouais, tout à fait.
On n'aurait pas d'hebdomadaire, de voilà. Mensuel. Avant on avait un hebdo, et là c'est un mensuel maintenant. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui ont été construites parce que l'AFA est organisée. Qu'il ne l'aurait jamais été, quoi.
Bon. Et si on remonte un peu plus haut dans l'histoire, s'il n'y avait pas eu la CNT, il n'y aurait pas eu les collectivisations en 36 en Espagne, etc., etc.
Oui,
non,
enfin, les bourses du travail. C'est incohérent. Quoi.
Voilà. Donc, il y avait vraiment une situation là à Saint-Imi qui doit, je crois, nous interroger, ouais. Interroger toutes les.
Mais, je t'en prie. Oui, excuse-moi. Ça me fait penser à un truc. Le discours de ce texte de la Dream Team, là, qui justifie la non-organisation, me fait penser au discours des anarchistes dans la période 1890-1900, quoi. Et où ils étaient absolument opposés à l'organisation, opposés aux syndicats, opposé à toute forme d'organisation des travailleurs. Bon, moi, c'était les travailleurs, parce que ceux-là, je sais pas ce qu'ils sont. Mais, et c'est le même discours. C'est-à-dire que, on ne s'organise pas, mais on se regroupe en fonction des besoins, puis ça se dissout, une fois que c'est fini, puis on recommence ailleurs, enfin, etc. Et c'est le même discours. C'est-à-dire, c'est un discours qui a,
120 ans, 130 ans.
Voilà. Mais c'est le même discours.
On va mettre une pause musicale, s'il te plaît, Lulu.
Carnaval, ces foulards et ces longues capes. Je tombe des nues à épiper que dalle devant ces drôles de sapes. C'est le même masque pour toutes ces filles croisées sur ma route. Mais de quoi les a-t-on privées? Est-ce Zorro qui est pas arrivé? Pourtant on dit que la planète se réchauffe, alors pourquoi tant d'étoffes? T'auras beau te couvrir jusqu'à la nuque, on n'est pas des eunuques. Est-ce un principe de précaution, ces barricades de chiffons? Et s'il fait peur à l'Amérique, ce loup qui casse pas des briques, est-ce pour être d'égal à égal? Ou quelqu'un qui t'a fait du mal? Dis, est-ce que c'est pour le scandale? Est-ce qu'il t'a promis les étoiles, le théorème du châle? Je tombe des nues, est-ce carnaval, ces foulards, ces longues capes. De toute ma ville dévale, des fantômes et tout m'échappe. C'est quoi ces filles qui se cachent? Est-ce qu'elles jouent à cache-cache? C'est l'été, on dirait l'hiver. Quelqu'un a dû dire, sortez couverts. Et puis l'amour, à qui la faute? Si c'est des vêtements qu'on ôte. Si ce monde est si salissant, peut-on vraiment vivre sans? Est-ce au nombre des interdits qu'à la manque oppose mari? Aimer un seul homme le beau métier, qu'on dirait de la pitié. Est-ce pour être d'égal à égal? Ou quelqu'un qui t'a fait du mal? Dis, est-ce que c'est pour le scandale? Est-ce qu'il t'a promis les étoiles, le théorème du châle? À deux pales, qu'a-t-elle vu qui soit si sale? A-t-elle vomi aussi sec quelques pages de Houellebecq? Y'a bien quelque chose qui cloche, un bruit au pays de Gavroche. Mais qui est-il, nom de Dieu, celui pour qui elle baisse les yeux? Est-ce pour être d'égal à égal? Ou quelqu'un qui t'a fait du mal? Dis, est-ce que c'est pour le scandale? Est-ce qu'il t'a promis les étoiles, le théorème du châle? Est-ce pour être égal à égal, le théorème du châle?
C'était Zebda, le théorème du châle. Nous sommes sur Radio Libertaire, la société dans tous les états. Mohamed au micro avec aujourd'hui René Berthier. Nous sommes revenus dans une première partie de l'émission sur les événements de Saint-Imier au cours des rencontres internationales anti-autoritaires. Donc ces agressions contre le stand de la table de presse de la FA à propos de à cause ou au prétexte de la présence de d'ouvrages jugés contraire à une certaine morale. Venons-en un petit peu à l'objet du délit. Donc c'est une petite brochure donc éditée par Le Monde Libertaire, un voile sur la cause des femmes, dans laquelle tu signes trois articles et c'est suivi ensuite par un recueil d'articles parus dans la presse libertaire, dans Le Monde Libertaire. Ce sont des débats à propos donc de la loi de 2004 portant interdiction du port de signes religieux ostentatoires à l'école. À l'époque, ça avait provoqué pas mal de discussions, les pour, les contre, et le Monde Libertaire avait publié des tribunes qui étaient qui revenaient des deux côtés en fait. Enfin, il y avait des tribunes qui étaient contre la loi et d'autres qui étaient plus en faveur, mais toujours avec cette idée. Donc on est dans un milieu anarchiste et les lois coercitives sont toujours discutées et discutables forcément. Donc voilà, l'ouvrage en fait il apporte un regard rétrospectif. Il a été publié en 2008, hein, c'est ça. Et alors lecture aujourd'hui, donc avec le contexte qu'on connaît d'une rentrée placée sous le signe de la baïa, on relit hein, les débats de l'époque et on retrouve peu ou prou les mêmes questions qui posent.
Oui, ça n'a pas beaucoup changé.
Avec dans le fond, alors on va essayer de développer notre réflexion là-dessus dans tes articles, les tiens, ne portent pas spécifiquement sur cette question-là du voile et des lois.
Je m'en fous du voile. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ils ont le titre, c'est, je sais plus quoi, c'est comment le titre.
Un voile.
Bon, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je ne parle pas du voile dans mes articles. Voilà. Ou incidemment, comme ça.
Voilà. Donc, tu signes trois articles. Le premier s'intitule sur le féminisme islamique. Le second, théologie féministe et contrôle social des femmes. Et le troisième, la République française, point d'interrogation, génial, trois points d'exclamation. Je marque bien les ponctuations parce que il y a une ironie, hein, bien sûr, dans ce titre. Certains l'ont pris au premier degré, hélas.
Enfin, sur ce troisième article, hein, la République française, génial, avec un point d'exclamation. C'est évidemment du second degré, mais il y a toujours des gens qui comprennent pas le second degré, qui comprennent pas forcément grand chose. Voilà. Il a été motivé par l'observation que j'ai faite dans une manif où il y avait, c'était une manif contre la loi précisément. Il y avait une gamine, je crois qu'elle devait avoir 15 ans, voilée, qui portait une grande pancarte. Notre constitution, c'est la loi. C'est le Coran. Ouais. Pardon. Notre constitution, c'est le Coran. Bon, ça m'a choqué, parce que, bien que la constitution de la République française ne soit pas parfaite, loin de là, vouloir remplacer une constitution laïque, globalement quand même, on ne peut pas dire le contraire, par la charia, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ça me choque, quoi. Et ça me choque qu'une gamine de 15 ans le fasse, parce que dans le cadre de la société française, elle ne vit pas les mêmes choses que si elle était en Iran ou en Arabie Saoudite. Bon, voilà.
En fait, je
mentionne au début ce qui a déclenché l'article, mais en fait, l'article, après, je passe à autre chose. Enfin, l'article en question, c'est une analyse de la constitution iranienne. D'ailleurs, c'est quelque chose de très relativement froid, quoi. Je veux dire, c'est pas bon. Et je fais la comparaison entre certaines dispositions de la constitution iranienne et de la société française et de la constitution française. Quoi.
Et particulièrement sur la
situation des femmes.
La situation des femmes.
Le reste, j'en parle pas. Bon. Oui, mais c'est la situation des femmes.
Qui aujourd'hui, depuis un an...
Et on est en plein dans l'actualité, en fait. Voilà. Cet article est vachement actuel, finalement. Oui.
Alors, on va pas revenir sur tous les détails que tu donnes, mais sur, par exemple, le mariage que les Iraniens appellent le mariage motra, qui veut dire en arabe le mariage de plaisir, de convenance, le mariage temporaire.
C'est de la prostitution.
Oui,
en fait.
C'est prévu dans la Constitution.
Et qui n'était pas dans le sunnisme, mais qui a été repris par les
salafistes.
Les salafistes et le fils algérien pendant la guerre civile.
Ouais. Alors, la Constitution iranienne prévoit qu'un homme marié peut contracter un mariage temporaire d'une durée minimale de 1 heure et d'une durée maximale, alors ça c'est très, 99 ans.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Et finalement, en fait, c'est simplement pour permettre à monsieur de tromper tranquillement sa femme officielle avec la bénédiction de la loi. En fait, cette constitution, elle est purement patriarcale.
Absolument.
Et elle est en vigueur, elle est appliquée aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant, ce que j'ai redécouvert à la relecture de cet article que j'avais lu il y a quelque temps déjà sur ton site, je crois, il était publié sur ton site.
Le Monde Nouveau. Oui, je l'ai repris ensuite sur le site.
Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, il y a les féministes iraniennes vont chercher les textes de loi qui sont pas publiés officiellement. Enfin, c'est très bizarre. Hein.
Ouais. Ça, c'est j'aborde ça dans un autre article sur le féminisme islamique, qui est une invention islamique. Ouais. Bon. Elles sont incapables de se détacher de la problématique religieuse, et donc c'est dans la religion qu'elles cherchent, dans la religion musulmane en l'occurrence, qu'elle cherche la contestation des pratiques dominantes concernant les rapports hommes-femmes, quoi. Et elles ont beaucoup de mal, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Bon.
Alors là, tu parles bien de certaines féministes
Certaines féministes qui se disent féministes islamiques.
Voilà. C'est pas toutes les féministes
du pays. Je suppose qu'il y a des musulmanes qui...
Laïques, qui revendiquent un féminisme laïque.
Qui ne se disent pas féministes islamiques.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Et donc, elle part de l'idée que les hommes ont mal interprété le Coran et qu'il faut aller chercher dans le Coran ce qui va dans leur sens. C'est un travail impossible, quoi, je veux dire. Ouais. Bon. Et à mon avis, elles aboutissent à rien. Mais en même temps, je crois que le premier congrès féministe islamique a eu lieu en 2005, mais c'était à l'initiative d'organisations islamiques internationales.
Oui, ça s'est passé en octobre 2005 à Barcelone.
Avec le soutien de la Ligue des droits de l'homme,
oui.
Précisons-le.
Et alors, il y a tu cites qu'à la tribune de cette rencontre, il y avait une femme du Qatar, une Qatari, qui était productrice d'une émission pour les femmes sur la chaîne Al Jazeera, et qui, en public, comme ça, se félicite que son pays n'ait jamais ratifié la Convention pour l'abolition des discriminations envers les femmes, la Convention internationale de l'ONU.
Et puis il y en avait une autre qui était l'épouse d'un gars qui était favorable à ce que les maris battent leurs femmes.
Oui, un prédicateur. Voilà. Donc dans ce recueil d'articles, tu interroges, tu fais une enquête simplement des textes dont tu disposes.
Je défie quiconque de trouver de l'islamophobie là-dedans. C'est une analyse un peu froide, même, je dirais, un exposé des faits, quoi.
Dans le texte qui s'intitule « Théologie féministe et contrôle social des femmes », tu reviens de manière assez fouillée sur l'espèce de réviviscence depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années de la propagande islamiste sur le corps des femmes, en particulier sur le voile, sur le... Tout ce à quoi on assiste depuis...
Mais ça, c'est une constante de toutes les religions, c'est pas spécifique à l'islam. C'est plus visible aujourd'hui dans le cas de l'islam, parce que le christianisme, enfin le catholicisme en tout cas, est moins visible, quoi. Bon. Mais le fait que la religion s'intéresse au corps des femmes, c'est pas spécialement islamique, quoi. C'est le catholicisme, ça a été comme ça, de manière extrêmement...
Tous les monothéismes, le judaïsme, le christianisme, l'islam, c'est... Bon,
quand on lit les lois de Pétain, c'est pas triste, quoi. La femme à la maison, reproductrice, et tout ça, bon, c'est le même discours que les islamistes.
Ce qui s'est passé, en fait, dans les pays européens, qui a conduit peu à peu à la à la sécularisation, à la laïcisation de, des sociétés, et qui a permis à, aux femmes d'accéder à un statut, on espère au moins égal à celui, mmh. à celui des hommes. Pourquoi ça s'est pas passé dans les pays musulmans? Alors, je ne demande pas de faire toute l'histoire, mais...
Non, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde, mais que j'ai abordé oui. dans un autre article qui est paru après l'affaire du Bataclan, là, mais qui n'est pas là, quoi. Ouais. Et c'est compliqué parce que, en fait, à un moment, on a voulu mettre dans les lois, les lois européennes, enfin, l'idée que l'Europe est une société chrétienne, quoi.
Les racines chrétiennes.
Il y a des racines chrétiennes. Voilà. Ce qui est vrai. Enfin, certains copains anarchistes ont dit non, c'est pas vrai. En fait, c'est vrai. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que toute la société occidentale, et en particulier la société française, s'est construite par une très lente, un combat acharné et très lent contre la religion. Et la société occidentale et française se définit aussi par le rejet de l'immixtion de la religion dans la vie publique. Mmh. Bon. En France, ça a relativement bien marché avec les lois de 1905. Hein, bon. Et en fait, ce combat a été initié par un arabe qui s'appelait Averroès. Et à l'époque, alors Averroès, c'était un intellectuel qui a été formé à la philosophie aristotélicienne. La philosophie grecque a été transmise dans le monde arabe par des traductions qui ont été faites par un tas de gens, des juifs, des Syriaques, des... Oui. Et ils ont traduit les textes des philosophes grecs. C'est grâce à eux qu'ils ont été conservés, même si c'est un peu déformé. Bon, et c'est passé par le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, et c'est arrivé en Espagne, quoi. Et donc c'est Averroès qui faisait des commentaires d'Aristote. Et à partir de ces commentaires, il y a des théologiens, des intellectuels européens, espagnols, chrétiens, français, oui. chrétiens, quoi, disons, qui ont assimilé ces textes. Et l'idée d'Averroès, c'est que la théologie et la philosophie, ce sont deux choses différentes. Alors qu'avant, c'était pareil, quoi, c'était assimilé. Et lui, il a dit non, la théologie, c'est une chose, c'est Dieu, tout ça, bon, et la philosophie, c'est autre chose, c'est la raison. Bon, alors, à ce moment-là, on ne contestait pas, c'était pas possible, l'existence de Dieu. Mais on disait que c'était deux choses différentes. Et cette idée a été reprise, et ça conduit à un combat de 8 siècles, par grignotage successif. Et ça, c'est très bien expliqué par un copain à toi, là, comment il s'appelle, qui a écrit un livre sur le matérialisme.
Ah oui, Pascal Charbonnat.
Voilà, par Pascal Charbonnat, ouais. qui a écrit un gros bouquin,
oui, Histoire
du matérialisme. Ouais. Et il explique de manière minutieuse tous les penseurs ouais. qui ont, à chaque fois, de génération en génération, grignoté, qui ont enlevé une petite brique de la théologie et ont rajouté une brique à la philosophie, quoi. Et c'est dur à lire, mais c'est passionnant. Et en fait, c'est grâce à ce penseur arabe qu'on est arrivé là, quoi. Bon. C'est-à-dire que la laïcité que combattent les islamistes d'aujourd'hui en France, a été initiée par un penseur arabe.
Ouais.
C'est marrant, quoi.
Tu expliques que Il y a un courant de modernisation au cours du XXe siècle, avant et après les indépendances, qui s'est produit dans les pays arabo-musulmans, avec peu à peu l'accès au capitalisme, à l'industrialisation, et peu à peu l'accès des femmes à des situations de sortie de la maison, du cercle familial, où elles vont à l'école et puis elles vont travailler, et forcément elles quittent la sphère de contrôle familial pour entrer dans la sphère sociale, et elles acquièrent peu à peu des pans de liberté qu'elles doivent négocier pied à pied, forcément. Et là-dessus, bien sûr, c'est une remise en question des fondamentaux de la société arabo-musulmane basée sur la loi du père, enfin, Je ne parle pas de psychanalyse là, hein, pas du tout, mais de l'autorité, de l'homme sur la sphère sociale. Et que là-dessus, donc, le fondamentalisme ou l'islam, on va dire, conservateur, veut à tout prix garder ses prérogatives et tend à imposer donc ce voile qui était en voie... Moi, je me souviens de la Tunisie des années 70, hein, j'étais adolescent à l'époque, où on comptait le nombre de jeunes femmes voilées dans la rue. Enfin, il y avait les dames un peu âgées encore, mais sinon, on voyait plus de têtes nues que de têtes voilées. Ce qui s'est un peu renversé dans les années 80-90 avec l'irruption donc des courants, j'allais dire presque néo-islamistes, hein, qui sont arrivés. Et on voit donc cette remontée donc du port des symboles religieux imposés aux femmes au nom de la protection des valeurs sacrées de l'islam vis-à-vis de l'Occident. Je me souviens on peut trouver ça facilement sur Internet, d'un discours de Gamal Abdel Nasser, donc le tribun dictateur.
Ça me dit quelque chose, voilà. J'ai dû l'entendre.
Ouais, donc il est devant des membres de son organisation politique et il fait un discours dans lequel il explique qu'il a rencontré le grand secrétaire des frères musulmans de l'époque. Alors ça se passe dans les années fin 50, début 60. Et il dit, voilà, c'était avant qu'il les réprime extrêmement sévèrement. Et il demande à ce responsable des frères musulmans, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et le dignitaire lui répond, écoute, parce qu'ils se tutoient, ils se connaissent, écoute, je voudrais que tu rendes obligatoire le port du voile pour les femmes égyptiennes. Alors là, on voit le visage de Nasser. C'était un comédien hors pair, hein, qui se dit mais c'est pas possible. Il lui dit mais comment tu veux que moi tu veux qu'on revienne en arrière, que les femmes sortent la nuit, et puis toi, ta fille, elle est étudiante en médecine et elle ne porte pas le voile. Si toi, tu n'arrives pas à imposer le voile à ta fille, comme on voit, moi, tu veux que je l'impose à des millions d'Égyptiennes. Et il y a un grand éclat de rire dans la salle, et puis on entend un spectateur qui dit, il a qu'à le porter lui-même. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'était un moment assez fort. Et puis, on a plein d'exemples comme ça de luttes féministes, de femmes qui tout en restant dans la religion, hein, elles sont pas toutes, enfin une petite minorité, mais sinon la plupart sont des bonnes croyantes, mais qui peu à peu laissent tomber les symboles extérieurs en disant c'est accessoire finalement cette histoire du voile. Et là. Il y a des choses matérielles. Tu parlais tout à l'heure en off, avant qu'on commence l'émission, de ces mariages mixtes.
Ah oui, je me souviens il y a 30 ans avoir lu une bonne trentaine d'années un article où il disait en substance que 50% des jeunes gens d'origine maghrébine se mettaient en ménage ou épousaient des françaises d'origine, si je peux dire, je sais pas quelle est l'expression. Et que 25% des jeunes filles maghrébines se mettaient en ménage ou épousaient des Français d'origine. Et l'article concluait qu'en trois générations, il allait y avoir assimilation, quoi. Ouais. Et je pense que le nœud du problème est là. Enfin, c'est une théorie parfaitement personnelle, mais je pense que le nœud du problème est là. C'est pour les islamistes, les fondamentalistes religieux, c'est insupportable. Parce que ça leur enlève la gamelle, quoi.
Ouais.
Tout bêtement, ça leur enlève leur base sociale et ça leur enlève la gamelle. Parce que beaucoup de choses, c'est finalement des questions de gamelle. Hein. Je raconterai un truc sur la clitoridectomie, hein, qui n'est pas spécialement musulman, mais
l'excision
qui est pratiquée aussi dans certains pays musulmans, mais pas exclusivement. Ouais. Et c'est une question de gamelle, parce que je crois que c'est au Soudan ou au Tchad, je ne sais plus, il y a une ONG américaine qui avait proposé, parce que c'était des femmes qui pratiquaient ça.
C'est toujours des femmes qui
pratiquent. C'est toujours des femmes, oui. Et c'était une tradition. Bon, alors quoi, ce qui est une tradition, évidemment, c'est pas, on ne peut pas remettre en cause. C'est comme ça, quoi. C'est presque divin. Et cette ONG avait eu une idée absolument géniale. Elle avait proposé des cours de formation sexuelle aux dames qui pratiquaient l'excision et un salaire. Bon, le salaire n'allait pas bien loin, mais bon. Mmh. Et du coup, l'excision a subi une baisse importante, quoi. Mmh. C'est toujours une question de gamelle, finalement.
Ah, oui, oui. Oui, oui, une question matérielle. Hein. Oui. Voilà, il suffit de...
Et bon, enfin, bon, on n'est pas dans le sujet.
Oui, oui, mais...
Et tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que ce qui s'est passé en Occident avec iOS et la suite n'a pas eu lieu? Alors, je sais, j'essaye de comprendre, ça fait longtemps que je... Et en fait, un copain tunisien m'a dit, c'est les oulémas qui ont pris le pouvoir, qui ont repris le contrôle de la société, quoi. Et donc, il y a eu un recul.
Les oulémas, ce sont les savants de l'islam. Religieux, hein, les religieux, oui.
Et parce qu'en fait, la civilisation islamique a été d'une floraison invraisemblable, quoi. Quand les croisés sont arrivés en Terre Sainte, ils considéraient comme des barbares, quoi. Parce qu'ils ne connaissaient pas la médecine, ils ne connaissaient rien. Enfin, c'était des ignorants crasses, quoi. Bon. Et ils tombaient sur des gens qui avaient une culture médicale, philosophique, etc., extrêmement développé. Et c'était des barbares, vraiment. Et la civilisation musulmane a récupéré le legs de la culture grecque, mais aussi de la culture indienne, qu'ils ont assimilée, etc. Bon. Et ça a produit des choses invraisemblables, quoi. Et brusquement, enfin, en fait, ça ne s'est pas effondré. C'est pour ça qu'on s'en rend pas... À partir du moment où... on dit que les portes de l'ijtihad ont été fermées. Bon, c'est-à-dire les portes de la pensée critique, quoi, si, pour résumer. Les portes de la pensée critique ont été fermées. À part ces oulémas, justement, l'islam a subi une régression. Mais c'est une régression extrêmement lente, ce qui fait qu'on s'en est pas aperçu. C'est-à-dire que tout l'acquis antérieur de l'Antiquité, tout ça, a continué à exister, mais ne s'est pas développé, quoi. Enfin, c'est une thèse que je...
Oui,
cet ami tunisien qui m'a expliqué, quoi. Et donc la culture musulmane extrêmement florissante, extrêmement riche dans poésie, enfin bon, c'est lentement et très lentement
étiolé,
oui. Quoi. Ouais.
Ce qui sera intéressant dans tes propos, et puis c'est aussi ce dont tu parles dans cette brochure, c'est que tu essaies de comprendre des situations concrètes à l'aide d'outils, je dirais, matérialistes, de réflexion et de comprendre les situations sociales et politiques.
Moi, c'est une approche un peu sociologique. Hein.
Et justement, c'est ce qu'on pourrait, à l'inverse, reprocher à une certaine... certains pans de ce qu'on appelle la gauche européenne, française, etc., au contraire d'être très condescendant et de refuser d'appliquer les grilles de lecture politique, matérialiste, sociologique qu'on applique sur nos sociétés, sur des sociétés... Il y a une forme de condescendance, finalement. Voilà, c'est leur culture, faut pas y toucher, faut pas l'analyser.
C'est du mépris.
Voilà, il y a une forme.
Pour moi, c'est du mépris.
Voilà, ils sont pas capables d'accéder. Enfin, ça revient à ça à la fin. Pourquoi voulez-vous que les femmes musulmanes ôtent leur voile et puis réclament aussi des droits parce que leur laissez-les tranquilles avec leur culture, c'est tout ce discours un peu relativiste. Ouais. Au nom du rejet de l'universalisme porté par les mâles blancs européens. Ok, on peut. Il y a beaucoup de choses à redire hein, sur.
Absolument.
Et c'est normal sur la colonisation, sur la domination capitaliste. Mais ça, c'est des choses qu'on peut analyser de point de vue politique. Hein. Mais cette grille de lecture fondamentalement matérialiste qu'on pourrait appliquer sur le qu'est-ce qui explique les situations aujourd'hui dans ces pays, dans les pays arabo-musulmans? C'est des conditions sociales, c'est des conditions économiques, c'est des conditions politiques.
Bah, tu sais, dans les années 30, en Iran, le Shah avait diligenté une enquête dans tout le pays, avec comme arrière-pensée l'idée d'interdire le port du voile. Donc il y a des gars qui sont allés un peu partout pour examiner la situation. Et puis, ils sont revenus en disant, mais c'est idiot, il n'y a pas besoin d'interdire le port du voile, personne ne le porte.
Oui.
Ou presque personne, quoi.
Oui.
Et les femmes qui portaient le voile, c'était les bourgeoises les bourgeoises de la Casbah, les femmes de marchands, etc., mais une petite minorité, quoi.
Ouais.
Mais l'écrasante majorité de la population féminine ne portait pas le voile. Donc, ils ont même pas fait la loi, parce que ça servait à rien, quoi.
Bien sûr. Bien sûr. Tout ce qu'on vient de dire, là, sur le livre, sur la brochure, hein, que tu as écrit, c'est complètement inconnu. On a l'impression qu'on n'en discute pas trop dans les milieux libertaires ou les milieux anarchistes. Enfin, si, là, entre nous, sur le... Mais pourquoi ça ne se diffuse pas, ces idées-là?
Je sais rien, moi.
Il faut brûler un livre ou l'interdire pour que tout d'un coup,
ils
se mettent à être mis en avant.
Je ne sais pas.
Oui.
Mais c'est un recul de la pensée critique d'une manière générale, quoi.
Ouais.
Je parle pas seulement de la pensée critique dans le monde musulman, chez les musulmans, mais en France en général, quoi, dans les universités, c'est une catastrophe, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. On est retourné avant le Moyen Âge, quoi. Parce que ouais. Au Moyen Âge, il y avait une pensée critique qui était florissante. Et contrairement à ce qu'on pense. Mais c'est un retour vers la barbarie au niveau intellectuel, quoi. Et la barbarie, c'est des nettes là, qui veulent interdire un livre qu'ils n'ont pas lu, quoi. C'est
voilà.
Quand même un comble, je veux dire. Bon. Et c'est, ça, c'est... Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? C'est par des... Je pense qu'il y a une forme de... Si tu veux, on en reparlera, mais de démagogie dans le mouvement... Dans le courant islamo-gauchiste et même dans le mouvement libertaire par rapport à ça. Et de, bon. La, et de la lâcheté.
Une pause musicale, s'il te plaît, Lulu.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu? Faudrait avoir la foi de mon charbonnier, qui est heureux comme un pape et con comme un panier. Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pascal, m'a gentiment donné ce conseil amical. Mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Je me mis à dépiter les rotuleuses à terre, tous les Ave Maria, tous les Pater Noster, dans les rues, les cafés, les trains, les autobus, tous les déprofondistes, tous les morbionibus. Sur ces entrefaites-là, trouvant dans les orties une soutane à ma taille, je m'en suis travesti. Et tonsuré de frais, ma guitare à la main, vers la foi salvatrice, je me mis en chemin. Je tombais sur un boisseau, punaise de sacristie, me prenant pour un autre en querelle, m'ont dit. Mon père, chantez-nous donc quelques refrains sacrés, quelques saintes chansons dont vous avez le secret. Grattant avec ferveur les cordes sous mes doigts, j'entonnais le gorille avec putain de toi. Criant à l'imposteur, au traître, au papelard, elles veulent me faire subir le supplice d'Abella. Je vais grossir les rangs des muets du sérail, les belles ne viendront plus se pendre à mon poitrail. Grâce à ma voix coupée, j'aurai la place de choix au milieu des petits chanteurs à la croix de bois. Attirée par le bruit, une dame de charité leur dit: que faites-vous, malheureuse, arrêtez. Il y a tant d'hommes aujourd'hui qui ont un penchant pervers à prendre obstinément Cupidon à l'envers. Tant d'hommes dépourvus de leurs virils appâts, à ceux qui en ont encore ne les enlevons pas. Ces arguments massus firent une grosse impression, on me laissa partir avec des ovations. Mais sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas, la foi viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus,
Il y a déjà quelque temps que je ne vole plus. Si l'éternel existe, en fin de compte il voit que je ne conduis guère plus mal que si j'avais la foi.
C'est génial, ça.
Georges Brassens, le mécréant, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans d'unimètre de la Fédération anarchiste, la société dans tous ses états. Mohamed au micro avec Lulu à la technique. Merci Lulu. Et René Berthier avec nous, donc sur les événements de Saint-Imier, la rencontre internationale anti-autoritaire de juillet dernier, et la brochure Un voile sur la cause des femmes, dont nous avons longuement parlé au cours de la deuxième partie de l'émission. Il me semble, René, que tu avais, il y a quelques années déjà, travaillé sur le congrès de 1872 à Saint-Imier, qui a vu alors la naissance du mouvement anarchiste. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir avec toi un petit moment sur cette histoire qui est,
oui, c'est qui un, j'avais fait un bouquin qui, je ne sais plus, la fin de la Première Internationale. Ouais. Et en fait, j'avais été un peu énervé parce qu'il y a beaucoup de conneries qui se disent sur la fin de la Première Internationale. Et c'est pareil, il y a dans le mouvement libertaire une absence d'esprit critique quand c'est des sujets qui gênent un peu, quoi. Et parce qu'en fait, le congrès de Saint-Imier de 1872 passe pour être le congrès fondateur de l'anarchisme. Alors c'est faux. C'est complètement faux. Dans ce congrès, se sont réunis des gens qui ne reconnaissaient pas l'exclusion par Marx et Engels et par le Conseil général de l'International, qui ne reconnaissaient pas l'exclusion de Bakounine et James Guillaume. Bon, on ne va pas aller dans le détail, ils ont été exclus. Et aussitôt, il y a eu un congrès de la Fédération jurassienne qui s'est tenu à Saint-Imier, suivi d'un congrès international l'après-midi où on traversait la rue et on allait au congrès international. Bon. Et le congrès de la Fédération jurassienne auquel adhéraient Bakounine et James Guillaume a dit « Nous ne reconnaissons pas l'exclusion de Bakounine et James Guillaume. » Et puis l'après-midi, on traverse la rue, on va au congrès international et le congrès international confirme le refus d'accepter l'exclusion de James Guillaume et Bakounine. Et c'est un congrès extraordinaire et décide de dénoncer le Conseil général et de constituer de renommer l'International Association internationale des travailleurs anti-autoritaires et de continuer. C'est-à-dire que c'est pas une scission. Ça a été défi, y compris malheureusement par pas mal d'anarchistes qui reprennent le discours dominant, disons. À la fois marxiste et bourgeois, quoi, où il dit c'est pas une scission, c'est un congrès qui récuse un congrès extraordinaire qui récuse un congrès précédent, qui dit on continue. Et la preuve, c'est qu'ils ont continué la numération des congrès en suivant celle qui avait déjà été faite, quoi. Donc c'était le sixième congrès, enfin bon. Et on appelle ça l'international anti-autoritaire parce que elle a pris des décisions contre l'autoritarisme, entre guillemets, du Conseil général. Mais en fait, le mot bureaucratique n'existait pas à l'époque. Mais anti-autoritaire, ça signifie bureaucratique. Bon. Ou anti-bureaucratique, plutôt. Oui, bon. Oui. Ils étaient anti-bureaucratiques. Et leur thèse essentielle, principale, c'était que peuvent adhérer toutes les fédérations qui admettent l'autonomie des fédérations et la possibilité pour chaque fédération de choisir sa voie vers l'émancipation des travailleurs. C'est-à-dire que chaque fédération choisit sa voie. Et il y avait une fédération, la fédération anglaise, qui était là, qui a récusé la décision de Saint-Imier, de La Haye,
du congrès de La Haye, de Marx et consorts.
Et elle, sa voie, c'était le parlementarisme. Et cette fédération était là, et elle était anti-autoritaire, elle n'était pas anarchiste. Bon. Et pendant quelque temps, la base de cette haïté anti-autoritaire, c'est chaque fédération choisit sa voie. Ouais. Et puis après, on verra si. Bon. Et ça incluait la possibilité de la voie électorale. Bon. Et puis petit à petit,
Excuse-moi de t'interrompre à ce moment-là. Il y avait la fédération anglaise, Quelles étaient les autres fédérations qui étaient présentes?
Il y avait, il y avait pas de fédération française, mais il y avait des sections. Il y avait la belge, suisse, italienne, espagnole, puis américaine, je crois.
Ouais. Oui, donc c'était quand même...
Ça représentait du monde.
C'était du monde. Et est-ce qu'on peut estimer le rapport de force avec l'international autoritaire?
L'international... Alors, parlons-en. La branche marxiste de l'international, numériquement, était quasiment zéro, quoi.
Ils étaient plus faibles,
oui. Ils n'étaient pas plus faibles, ils étaient quasiment inexistants, parce que la seule qui soutenait théoriquement Marx, c'était une fédération allemande qui n'existait pas.
Ouais.
Parce que quand les... On va revenir un peu en arrière, mais c'est assez intéressant. Quand Marx et Engels préparaient l'exclusion de Bakounine et James Guillaume, ils ont rameuté le banc et l'arrière-banc de leur soutien. Et il y a, je ne sais plus si c'est Bebel ou Liebknecht, le social-démocrate allemand, qui a écrit à Marx, mais il y a une lettre d'Engels à Bebel, je crois, qui dit « Quoi ? Vous n'avez que 108 adhérents ?»
Ouais.
Mais c'est pas possible, comment vous voulez quoi ? Et Engels engueule son correspondant allemand, c'est-à-dire que la fédération allemande, c'est ça.
Et quelles étaient la... Alors, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais la cause de cette de l'exclusion de Bakounine et de Guillaume.
Il y a les causes réelles et puis les prétextes quoi. Les prétextes c'était qu'ils voulaient prendre en main l'international, qu'ils voulaient prendre en main le Conseil général. Ce qui est idiot parce qu'ils voulaient le dissoudre en Bakounine.
Mais...
Ils disaient ça sert à rien. Bon, donc c'est un faux prétexte. Bon, la vraie raison. C'est qu'il y avait deux modèles sociaux qui se concurrençaient, et le modèle dont Bakounine n'était pas le créateur, absolument pas, mais l'expression était très largement dominant. Et ça, c'était pas supportable, quoi.
Ouais.
Non, ils ont préféré liquider. Parce qu'après, après le congrès de Saint-Imier où la fédération jurassienne a récusé la décision de la Haye, toutes les autres fédérations, en un an, on finit par récuser aussi. Et elles ont été exclues par ce qui restait du Conseil Général. C'est-à-dire que Marx et Engels ont exclu la totalité du mouvement ouvrier de l'époque, quoi.
Ouais.
Sauf les Allemands qui n'existaient pas.
Ouais.
Ils ont exclu toutes les organisations ouvrières de l'époque. Et bon, ça, personne ne le dit. Mais tu lis les textes, c'est ça. Hein.
Et alors... Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est-à-dire que Saint-Imier prend un certain nombre de décisions, et quels vont être les développements et les orientations de toutes ces fédérations?
Saint-Imier, le congrès de 1872 décide un pacte de solidarité. Si une fédération est attaquée, les autres la soutiennent. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que Saint-Imier, ça a été une victoire absolument éclatante du mouvement fédéraliste, quoi, je dirais. Mais j'aime pas le mot anti-autoritaire, ça m'énerve un peu. Mais le courant fédéraliste de l'AIT a eu une victoire absolument éclatante, quoi. Et en 3 ans, 77, ça fait quoi, 5 ans, l'AIT, c'est même pas... Elle s'est dissoute dans la nature, quoi. Elle s'est évaporée, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment... La fédération jurassienne qui était chargée de convoquer les congrès décide de ne plus les convoquer après le congrès de Verviers en 77.
Donc il y a eu 5 congrès.
Il y a eu 5 congrès. Et à ce congrès-là, en fait, s'est produit une chose que
Bakounine. Parle du congrès de Verviers.
De Verviers, pardon.
77, oui.
S'est produit une chose que Bakounine avait. Dont Bakounine avait prévenu ses partisans. Il ne faut pas que l'international ait un programme politique uniforme. Et Bakounine accusait précisément Marx de vouloir imposer un programme électoral, quoi. Marx voulait transformer l'AIT en parti politique, quoi. Et Bakounine disait non, si vous imposez un programme à l'association internationale qui n'est pas un parti, ipso facto, vous créerez autant d'internationales qu'il y a de programmes. Parce que chaque partisan d'un programme va vouloir créer sa propre... Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Bon. Et ici, vous faites ça, c'est la fin de l'international. Et à Verviers, les anarchistes qui ont progressivement fini par dominer, plutôt par démission des autres, parce qu'ils en avaient ras-le-bol, ils ont imposé un programme anarchiste. C'est-à-dire que tous les partis sont des adversaires. Tous les partis politiques, indistinctement, sont des adversaires. Ce qui fait que, évidemment, c'est imposer une forme de programme qui était contraire aux positions d'autres fédérations. Et la fédération belge est partie, alors que c'était une fédération importante, qui était très proche des positions de Bakounine, etc. Enfin bon. Et ils se sont retrouvés tout seuls, quoi. Et la fédération jurassienne, à la fin, s'est retrouvée avec 200 adhérents, quoi. Et ils n'ont jamais été très nombreux, mais elle s'est retrouvée avec 200 adhérents. Et les réunions de la fédération jurassienne, c'était pas des réunions d'une organisation de classe, c'est-à-dire d'une organisation regroupant des travailleurs sur la base de leur rôle dans le processus de production. C'était des réunions d'intellectuels. Il y avait Kropotkin, Malatesta, Élisée Reclus, etc. Bon, et c'était plus une organisation de classe, c'était une organisation affinitaire, si tu veux. Et l'AIT s'est transformée comme ça, quoi.
Alors, à quel moment apparaît, quelque chose qui nous intéresse un petit peu, hein, le syndicalisme révolutionnaire? Comment il s'inscrit dans cette histoire-là?
Alors, c'est pareil. Moi, j'ai une théorie qui concorde pas forcément avec celle d'autres auteurs. Pour moi, dans l'AIT anti-autoritaire, il y avait, de manière embryonnaire, une sorte de pré-syndicalisme révolutionnaire et de pré-anarchisme. En fait, ce sont les Italiens qui ont introduit, qui ont été en gros les impulseurs de la transformation de l'AIT en organisation anarchiste, quoi. Et donc, il y avait un pré-syndicalisme révolutionnaire et un pré-anarchisme. Et ces deux courants... Et ça a été une constante dans le mouvement libertaire de tout temps, jusqu'à maintenant, quoi. Entre le courant syndicaliste et le courant anarchiste proprement dit, quoi. Et ce courant est devenu le syndicalisme révolutionnaire en France, parce que James Guillaume a quitté la Suisse, je ne sais plus en quelle année, en 77, je crois, et il s'est installé en France. Et bon, il a eu une petite dépression à un moment parce que sa fille est morte, et puis il s'est repris, et puis il s'est retrouvé très proche des syndicalistes révolutionnaires, de Mona, de la vie ouvrière, tout ça. Et il a pas mal influencé les militants syndicalistes révolutionnaires. Le syndicalisme révolutionnaire existait déjà, mais il a en quelque sorte contribué à le renforcer en publiant des textes de Bakounine, qui étaient tombés dans l'oubli, quoi, pratiquement. Et puis il y a eu un autre courant avec Kropotkin, Malatesta et tout ça, qui est une sorte de pré-anarcho-communisme, quoi. Et c'est devenu l'anarcho-communisme vers 1880. Bon. Et en fait, ces deux courants ont existé soit en coexistant pacifiquement, soit de manière antagonique selon les circonstances, quoi. Et c'est encore plus ou moins le cas aujourd'hui. Ouais.
Donc cette histoire, elle est riche, là. Tu viens de nous en faire un résumé.
Moi, je m'empresse de dire que ça a été un résumé très, très, oui. Très, très gros lancé, quoi.
Oui, parce que ton livre ferait plus de 300 pages.
Hein. Alors, tant que ça.
Oui. Enfin, c'est le PDF que tu m'as...
Ah, peut-être, oui, oui, oui.
Mais c'est très riche, c'est plein d'informations. Et c'est... Mais je voulais qu'on revienne un peu sur cette histoire, parce que... Pour qu'on mesure un peu la distance qui nous sépare, hein, donc le prétexte d'organisation de ces rencontres internationales anti-autoritaires, c'était le 150e anniversaire du congrès de Saint-Imier. Bon, ça n'a pas pu avoir lieu en 2022, ça a eu lieu un an après, donc le 151e anniversaire. Mais quel rapport il y a
À mon avis, aucun. Moi, je pense que ce qui motivait le courant dominant dans les rencontres de cette année, ça a été anti-FA et anti-organisation.
Oui, c'est ce que tu
tout,
disais.
Tout le reste découle, quoi.
Ouais. Mais
pour moi, la FA, ça fait 3 ans que j'y suis plus, mais je n'ai pas coupé les ponts. Je ne suis pas parti parce que j'étais en désaccord avec moi. Je suis parti parce que je suis vieux et que bon.
Face aux jeunes.
J'ai pris ma. Voilà, c'est ça. Bon, il est clair que pour l'instant, la FA reste à ma connaissance, la seule organisation anarchiste en France qui continue à défendre l'idée que la lutte des classes prime sur la lutte des identités multiples. Ce qui ne veut pas dire que les luttes des identités diverses soient illégitimes, mais que la lutte des classes prime cela quand même, quoi. Et en fait, le wokisme et tout ces des dames patronesses woke inclusives et tout ça, ça vise à occulter la lutte des classes.
C'est donc quelques fondamentaux là qu'on essaie de rappeler à la fois par l'aspect historique, mais tous les événements qui vont découler de après Saint-Imier, Saint-Imier de 1872 a quand même impulsé un mouvement à la fois politique mais aussi syndical. Ça va se développer. On connaît la fondation de la CGT à la fin du XIXe siècle, le congrès d'Amiens, la charte d'Amiens 1906, c'est ça,
oui.
Un syndicat révolutionnaire, et puis les appels à la grève générale, peut-être encore la mythologie du grand soir à l'époque, et tout ça, ça va se casser la gueule en 14 avec la déclaration de guerre.
Alors, écoute, sur le... Moi, j'entends souvent dire la trahison du syndicalisme révolutionnaire en 1914.
C'est pas ce que j'ai dit. Hein.
Non, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui le disent. C'est des conneries. Parce que en 1914, ça fait un moment que la CGT n'est plus syndicaliste révolutionnaire. Ce qui s'est passé, c'est que en 1906, il y avait le congrès d'Amiens qui, en fait, a éjecté tous les thèmes anarchistes. Dans la charte d'Amiens, tu ne trouves plus la lutte contre l'État, contre le militarisme et contre la religion, du tout, ce qui était des thèmes anarchistes. Et ça a été éjecté. Et en fait, la charte d'Amiens, c'est un sort de compromis pour éviter la scission. Parce que les réformistes étaient devenus très puissants, même plus, étaient globalement majoritaires, et menacés de scissionner. Donc, à cette époque-là, l'idée de scission, c'était inconcevable. Donc, il y a eu une sorte de compromis entre les anarchistes, les syndicalistes révolutionnaires et les réformistes. Bon. Mais, en fait, ça a été une victoire des réformistes, des socialistes. Et très peu de temps après, quelques mois après, il y a eu un congrès socialiste. Bon, faut savoir qu'avant, le socialisme s'est divisé. Il y avait 5 ou 6 partis qui se tiraient dans la gueule les uns les autres. Et il s'est unifié en 1905, c'est-à-dire juste avant la charte d'Amiens. Et en 1905 ou 6, il y a eu un congrès socialiste où tout le monde se félicitait du vote de la charte d'Amiens, qu'on n'appelait pas encore comme ça, mais qui se félicitait parce que c'était bien, quoi. En fait, si tu regardes bien, ça entérine la division du travail entre partis et syndicats. La charte d'Amiens, tu dis bien.
Ouais.
Ça entérine. La seule chose qui reste, qui est intéressante, parce que il n'y avait aucun risque que ça arrive, c'était que la CGT aujourd'hui, organe de lutte, devient demain l'organe qui organisera la société. Bon, ça c'est une concession au courant révolutionnaire, mais c'est une concession des réformistes qui savaient bien que c'était pas pour demain.
Ouais.
Bon. Mais voilà. Donc la charte. Et à ce moment-là, il s'est passé que ont adhéré à la CGT des fédérations entières dominées par les réformistes, le textile, l'imprimerie, je ne sais plus, enfin bon, et qui devenaient majoritaires, qui étaient très puissantes, et par le jeu des élections syndicales, les mandats tenus par les révolutionnaires étaient remplacés par des réformistes. Et ça s'est fait entre 1906 et 1908-1910, quoi. Et à partir de 1910... On ne peut plus considérer la CGT comme syndicaliste révolutionnaire. On ne peut pas dire que la CGT syndicaliste révolutionnaire a trahi, quoi. En adhérant à l'Union sacrée.
Il y a un autre mouvement syndicaliste de masse qui va se développer en Espagne, avec la CNT. Là aussi, il y a des liens avec Saint-Imier. Comment ça se...
Au moment de Saint-Imier, il existait une fédération espagnole où il y avait, je crois, 40 000 adhérents. C'était énorme. Hein,
ah oui, oui.
Bon, et cette, alors, cette fédération a continué pendant quelques années, mais il s'était créé entre-temps un courant anarchiste communiste, d'inspiration kropotkino-malatestienne, mal compris, quoi. Bon, mais bon, et un courant, il y a eu un courant anarchiste communiste en Espagne qui était anti-syndicaliste. Et qui, en fait, a fini par détruire le mouvement syndical, enfin, les organisations syndicales. Et à partir de, je ne sais plus, 1880, j'ai plus ça en tête, hein, mais les syndicalistes ont cessé de convoquer des congrès parce qu'ils étaient sabotés par les anarchistes, quoi.
En Espagne.
En Espagne, oui. Et pendant 20 ans, il y a eu un, en fait, il y a eu une rupture de continuité entre ce qu'on ne dit pas en général, entre l'héritier, entre la fédération membre de l'AIT, la fédération espagnole. Ensuite, il y a eu une rupture de 20 ans. Et ensuite, les anarchistes communistes ont compris que ça servait à rien, que leur politique était inefficace. Et de manière c'est ça qui est extraordinaire. De manière concertée, je ne sais plus si c'est en 1907, ils ont dit « Maintenant, on rentre dans les syndicats ». Et ils sont tous rentrés dans les syndicats. Mmh. Et ça a donné la création, en 1910, de la CNT. Et on sait ce que c'est devenu ensuite, quoi. Oui.
Ces rappels historiques que tu nous fais là sont, à mon sens, extrêmement importants pour redonner un petit peu de perspective à cette histoire, le temps long et la complexité aussi, hein, de toute cette histoire-là, l'histoire du mouvement anarchiste globalement, et puis de toutes ces composantes, est bien plus compliquée, bien plus complexe que, oui, ce qu'on peut en imaginer. C'est tout ça dans une période de d'affrontement très violent avec les tenants du capital, hein. Les grèves à cette époque-là, ouais, sont très durement réprimées, hein. On pense à Fourmis, par exemple, ou, ouais, les 1er mai sanglants, les luttes absolument incroyables, la condition ouvrière à cette époque-là. Et puis voir tout ce qui a été mis en œuvre dans toutes ces luttes et là, mais pourquoi cette histoire, c'est aussi, enfin, c'est une question un peu bateau que je te pose là, René, je sais bien que c'est, mais pourquoi cette histoire là c'est aussi mal ou si peu transmise
je ne sais pas, franchement, ouais, je ne sais pas.
Pourtant, on pas de support.
Ça faisait le désespoir de Gaston Leval,
ouais,
qui était un militant qui a déserté en 14, qui s'est retrouvé en Espagne, qui a milité dans le mouvement espagnol. Et à la fin de sa vie, il avait créé un centre de sociologie libertaire pour former des militants, parce qu'il était absolument désespéré par le manque de formation des militants. Quoi. Donc on est quelques-uns à être passés à travers son centre. Mais lui, il était désespéré par la faible formation des militants libertaires, quoi.
Oui.
Et je pense que ça n'a pas beaucoup changé.
Oui.
Et puis, il y a aussi beaucoup d'absence, de sens critique, quoi.
Oui, mais bon, ça cette absence de sens critique.
Oui, ça va
oui,
avec.
C'est un phénomène bien plus général. Enfin, ça ne touche pas que le milieu libertaire. C'est extrêmement diffus dans la société, même si peut-être on peut espérer qu'ici, au moins, on essaie dans cette émission, puis à la radio, de continuer justement à transmettre et cette histoire, et puis cet esprit du sens critique, en tout cas de donner matière à réfléchir. Tu vois, on a commencé par parler d'événements, somme toute, assez... si on regarde ça de loin, c'est assez... anecdotique, oui. Une table de presse renversée dans une petite bourgade.
C'est trivial.
Voilà, c'est une petite, c'est pas grand chose, mais ça se passe pas n'importe où, ça se passe à Saint-Imier.
Puis c'est assez représentatif d'une tendance générale.
C'est représentatif d'une tendance générale, bien sûr, et puis c'est aussi autour de textes qui pourraient amener à réfléchir. À l'époque, j'avais lu, quand le livre est sorti d'Amit Zanaz, L'impasse islamique, comme beaucoup de camarades, de compagnes et de compagnons, j'avais été un peu surpris par la préface de Michel Onfray, Mais à l'époque, il n'était pas encore ce qu'il est devenu depuis. Hein. Mais en tout cas, le livre d'Amidzanas apportait des informations de l'intérieur. Amidzanas, c'est un philosophe rationaliste qui vit en Algérie et qui, a priori, sait de quoi il parle quand il dénonce l'islamisation de la société algérienne à un moment où cette société sortait à peine de cette décennie noire absolument terrible avec des dizaines, voire des centaines de milliers de morts à ce moment-là. Des ouvrages qui avec lesquels on peut tout à fait être en désaccord, qu'on peut discuter, qu'on peut mais
ça justifie pas de les brûler quoi.
Voilà, c'est ça qui était choquant justement dans cette affaire de Saint-Imier. C'est pour ça que je voulais faire cette émission entre guillemets à chaud, enfin à deux mois de l'événement, pour tenter d'y apporter notre réflexion et puis de continuer à dire qu'on voilà, on peut discuter, on peut continuer un des fondamentaux quand même du mouvement libertaire et anarchiste et anti-autoritaire, c'est quand même ni Dieu ni maître. Il semblerait qu'aujourd'hui ça devienne presque un gros mot.
Oui.
Hein, pour certains en tout cas, c'est quelque chose qui a été revêtu d'une sorte d'opprobre et ça n'a plus lieu d'être. Alors qu'au contraire, il faut réaffirmer, je pense.
Ah oui, plus que jamais.
Plus que jamais, c'est fondamentaux. En tout cas, l'émancipation sociale et collective et individuelle ne pourra pas se faire sans qu'on remette en question aussi tous ces dogmes, qu'ils soient religieux ou autres, et donner la possibilité aux individus et aux collectifs de se libérer de tous ces déterminismes et de toutes ces chaînes qui empêchent la pensée et donc l'émancipation.
Je pense que l'erreur de l'impasse islamique, des éditeurs, c'est d'avoir eu recours à Onfray, quoi.
Oui.
Je pense que c'était dans une intention relativement, compréhensible de faire un peu de la pub.
Voilà.
De faire appel à un intello de haut vol, ça fait de la pub. Je pense que c'est l'erreur qui est là, quoi. Parce que les intellos de haut vol sont assez volatiles, politiquement et idéologiquement. Et on ne sait jamais aujourd'hui ce qu'ils seront demain, quoi.
Oui. En tout cas, cette préface, elle fait une page et demie.
Oui, bon, c'est...
elle est tout à fait dispensable. Et le texte de Amidzanas, lui, par contre, donne des pistes de réflexion tout à fait intéressantes. Notre émission touche à sa fin. René, je te remercie infiniment.
Bah, c'est moi qui te remercie.
Cette invitation. En tout cas, c'était un plaisir de discuter, de poursuivre cette conversation.
Bah, surtout que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu.
Ça faisait un moment, effectivement. Et puis, c'est une conversation qu'on a commencé il y a pas mal d'années. Ouais. Et puis, qu'on va, j'espère, continuer et poursuivre. On va laisser la place à nos amis du monde merveilleux du travail qui sont présents déjà dans le studio et qui vont s'installer au micro. Donc le syndicat CNT va prendre le micro dans quelques instants. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Normalement, j'espère avoir à cette table Nejib Sidi Moussa, donc on a déjà accueilli plusieurs fois dans la radio, pour nous parler de l'école et de son journal d'un précaire à l'éducation nationale. Lulu, c'est à toi.
Alors Jeff Bezos, loin de la Terre, avec ses containers, vivra tout seul, c'est beaucoup mieux qu'avec ses actionnaires.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlée. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
Il est encore passé ce maudit chat.
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur les c'est leur 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire. Running wild, lost control. Running wild. Édito du lundi 18 septembre 2023 du Monde Merveilleux d'après. La seconde première reprise du cours de notre émission après la pause estivale. On l'a loupé il y a 15 jours. Hein. Il est toujours intéressant de donner un coup de projecteur sur les expériences autogestionnaires, surtout quand les retours médiatiques en leur temps ont pu être déformés ou aujourd'hui carrément tus. Pour ce second volet consacré au film documentaire de 2009, de Jean-Michel Rodrigo, Villa El Salvador, nous retrouvons donc son réalisateur et nous sommes accompagnés aussi de Jean-Manuel Trémont avec qui nous explorerons cette fois-ci le volet économique de la ville autogérée. Vous pourrez donc écouter en podcast sur le site Radio Libertaire, enfin radio-libertaire.net à la date du lundi 6 février 2023 du Monde Merveilleux du Travail, le premier volet, la création de Villa El Salvador. Mais tout de suite, dans le monde merveilleux du travail, comme il n'y a pas de chronique, on va s'écouter tout de suite une petite musique latino-américaine qui n'est pas péruvienne. Mais